À l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, on est suprême, le Seigneur même, il est amour. Je veux dire toujours le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. On peut affirmer que quelqu'un est venu d'un autre monde pour séjourner un certain temps sur notre globe. Son nom était Jésus. Chacun devrait admettre cette certitude et se servir de ce fait fondamental pour construire sa vie et son destin. Mais qui est ce Jésus-Christ? Appartient-il à la catégorie des personnes mythiques? Peut-on le mettre au même niveau que Saint-Nicolas ou le Père Noël? Est-il tout simplement un dirigeant religieux, sage et curieux dans son comportement, tout comme Gandhi ou Mahomet? Avait-il revêtu le déguisement d'un dieu, d'une de ses prétendues incarnations de l'unique esprit de l'univers? Il existe de nos jours nombre de personnes très élevées et mal informées, qui s'imaginent qu'après tout Jésus ne présentait rien de très original dans son enseignement, que rien en lui n'était unique en son genre, et que ses paroles étaient empruntées soit à la philosophie du moment, soit au judaïsme. Il est vrai que dans le détail, il y aurait à la rigueur moyen de trouver un parallèle ou l'autre dans certaines de ses paroles, mais il serait impossible d'en trouver dans les lignes directrices de l'enseignement de Jésus. Les rabbins parlaient de l'autorité des Écritures de l'Ancien Testament qu'ils citaient. Jésus, par contre, parlait avec autorité. Et l'une de ses expressions favorites était « en vérité, je vous le dis ». Est-il nécessaire de posséder une compréhension approfondie de la nature du Fils de Dieu? Écoutez quelques-unes de ses paroles avant de répondre à cette question. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il est difficile d'imaginer un simple homme doté de toutes ses facultés mentales faisant une déclaration qui résonne comme une sommation, telle que « si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Non seulement est-il important de comprendre qui est réellement Jésus, mais de plus, il est impératif de croire en lui. Il ne fait aucun doute que les gens bien informés savent que Jésus est le seul et unique être absolument exceptionnel de toute l'histoire humaine. Le monde s'est trouvé marqué par des politiciens avisés, des hommes d'État énergiques, des éducateurs éminents, ainsi que par des prédicateurs très populaires. Mais il n'existe qu'un sauveur. L'influence qu'a exercée et qu'exerce toujours Jésus sur des centaines de millions de vies est sans précédent dans l'histoire de notre globe. La compréhension du fait que Jésus vivait déjà avant de venir sur Terre nous amène à comprendre qu'il ne peut s'agir là que de quelqu'un d'unique. Lorsque nous réalisons par voie de conséquence qu'il est descendu du ciel pour libérer l'homme du péché, lui donner à la fois une existence qui se prolonge à jamais dans l'au-delà, alors nous sommes bien mieux préparés à considérer ce qu'il dit avec tout le sérieux et le respect dont nous sommes capables. Il ne fait aucun doute pour nous que le Fils de Dieu vient du ciel, car il en témoigne lui-même. « Je suis descendu du ciel », affirme-t-il. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La démonstration probante de l'évangile de Jean peut convaincre n'importe quelle âme honnête et sincère que Jésus-Christ était bien avec le Père dans l'éternité. Voyons avant tout le témoignage se trouvant tout au début de l'évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Les paroles au commencement relie en quelque sorte Jean chapitre 1 avec Genèse chapitre 1. Au commencement des temps, c'est-à-dire la durée entre deux éternités, la parole existait déjà. Il me semble inutile d'épiloguer sur l'identité de la parole, puisque Jean spécifique spécifie très clairement quelques versets plus loin que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole qui était au commencement avec le Tout-Puissant est bien celui qui devint chair, le Seigneur Jésus-Christ. De plus, ce magnifique passage de Jean 1 nous informe sur la vraie nature de Dieu. Nos esprits sincères sont à même de pouvoir le comprendre, mais des cerveaux tortueux combinaient quantité d'idées fallacieuses à propos du Fils de Dieu. Au IVe siècle de notre ère, on enseignait la doctrine suivant laquelle Jésus était en réalité le premier être créé, ce qui faisait de lui une sorte de second Dieu, inférieur à l'Éternel lui-même. Une version de cette doctrine déshonorante pour Christ est toujours répandue de nos jours. Il s'agit de ceux qui enseignent par un zèle désordonné que Christ n'était autre que l'ange créé nommé Michel, une organisation religieuse bien connue, ayant produit sa propre Bible, rend ce passage de la manière suivante. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, avec des minuscules. Et ce des minuscules est très éloquent. Jésus-Christ était Dieu. Il faisait partie de la divinité. L'apôtre Paul, en Philippiens 2, 5 à 6, dit même, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » En examinant la nature véritable de Jésus-Christ révélée dans la Bible, on voit d'après Jean que toutes choses ont été créées par la parole faite chair. Il écrit en effet, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si Jésus existait en forme de Dieu avant l'époque où il se fit chair pour vivre parmi les hommes, et la Bible le dit, son œuvre dans le ciel prend une valeur très significative. La première de ses activités se trouve imbriquée dans la création. La Bible révèle que l'œuvre créatrice du Christ était en cours avant la formation du monde et avant la formation de l'homme qui devait l'habiter. Lisons ensemble Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe des choses visibles et invisibles créées par Christ. Puisque les éléments invisibles sont situés au-delà de notre vision, il ne fait aucun doute qu'il existe des choses créées ou des êtres qui nous sont totalement inconnus. Lorsque Paul parle des trônes, dignité, domination et autorité, il semble avoir à l'esprit les hôtes angéliques du ciel. Nous savons, toujours par le récit biblique, que ces anges existaient avant la création proprement dite, parce que, comme le révèle Job, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsque la terre fut fondée. Le Seigneur Jésus est non seulement actif quant à la création, mais de plus, c'est grâce à lui que l'univers existe et demeure. Le Nouveau Testament, par la plume de l'apôtre Paul, nous dit bien qu'étant le reflet de la gloire et l'empreinte de Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le même Paul, affirmant que Jésus existait avant toutes choses, ajoute en corollaire « et toutes choses subsistent en lui ». Si Christ était présent avant la création, il faut nécessairement déduire qu'il est éternel. L'idée que le Fils fut la première des choses créées par le Tout-Puissant constitue la base d'une série de doctrines sorties tout droit d'imagination par trop fertile et inventive. Christ est le premier-né de toute la création, dit Paul. Mais il explique aussitôt ses paroles, car en lui ont été créées toutes les choses. Le Fils de Dieu possède la supériorité de rang, de dignité, de droit sur l'univers créé parce qu'il en est l'agent créateur. Il est également le soutien de cette création, comme le stipule la même épître aux Colossiens, toutes choses subsistent en lui. Le mot « subsister » signifie, selon le dictionnaire Larousse, « exister encore, continuer d'être, se maintenir ». Qu'est-ce qui permet aux planètes de l'univers de graviter les unes autour des autres? Les saisons se marquent invariablement, un équilibre est maintenu dans la nature. Il doit exister une sorte de pondération ou d'interdépendance entre les règnes végétal, animal, minéral et l'homme. Sinon, nos soucis à propos de l'écologie et de la rupture de l'équilibre de la nature n'auraient aucun sens. Mais qui est à la source de tout cela? La réponse vous est donnée en Hébreux 1:3. Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. mais son rôle ne se limite pas là. C'est également Jésus-Christ qui va révéler le message que Dieu adresse aux hommes. L'apôtre Paul révèle que l'Esprit de Christ habitait les prophètes de l'Ancien Testament. Par ailleurs, le même Pierre déclare que les prophètes avaient été rendus capables de prédire les souffrances du Seigneur et la gloire qui en découlerait à cause de cet Esprit qui était en eux. L'Esprit de Christ se trouvait en Noé. Et c'est par ce même moyen que le Fils de Dieu parla aux esprits des hommes emprisonnés dans le séjour des morts. C'est ce qui fait dire à Pierre, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Tentons de graver en nous les faits relatés par ce passage. Lorsque Pierre écrit cet épître, les esprits de ceux qui avaient désobéi au temps de Noé étaient retenus prisonniers. L'Esprit de Christ étant en Noé, c'est par le truchement de cet homme que Jésus leur parle, tout comme il l'avait accompli par les prophètes de l'Ancien Testament. Une étude attentive de la Bible nous permet de voir que le Seigneur Jésus-Christ était celui par qui l'alliance avait été traitée avec Israël. En Hébreu 8 se trouve une citation de Jérémie 31. Et ce passage dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Mais qui a traité la nouvelle alliance? Hébreu 10 répond. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Avant que la parole fût chair pour habiter parmi les hommes, elle était avec le Tout-Puissant dans l'éternité. La parole qui devint chair était celui par qui toutes choses avaient été faites. Il est celui par qui toutes choses subsistent. Il est celui qui, après avoir traité une alliance avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, en passa une autre avec les habitants du monde entier. Vous faites partie de ces gens-là. Avez-vous jamais envisagé le Christ sous cet angle-là? Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement entendu, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je retiendrai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour.
Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime, dans la suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je retiendrai toujours le Seigneur m'aime.